C'est beau.
Oui, alors, nom de l'œuvre et nom du compositeur, s'il vous plaît. Je pense facile.
Pas difficile.
Non,
les,
non.
Les quatre saisons
oui,
de Vivaldi.
De Vivaldi, eh oui, une œuvre.
Vous l'aviez deviné, hein, Mathieu et Daniel?
Oui, absolument.
Ouais.
Vous savez qu'il existe environ 1000 versions différentes depuis le premier enregistrement qui a été fait en 1939.
Ouais.
Alors, dans toutes les versions qui ont été enregistrées, là, il y a divers arrangements. Vous avez notamment en jazz, des transcriptions également, piano, orgue, harpe, guitare, flûte, accordéon, synthétiseur pour les plus courantes, oui. Je ne sais pas ce que ça donne. Et moi, on m'a même parlé d'un enregistrement qui existait, qui aurait été fait en Suède, avec des effets sonores. Du vent, des oiseaux, de
ah,
la
oui,
pluie.
On est vraiment dans la nature.
J'ai essayé de retrouver ça.
Ça n'a pas été
non,
possible?
Je ne trouve pas. Je fouille, puis je ne trouve pas
Est-ce
ça.
Est-ce qu'on a déjà mis des paroles sur les quatre saisons de Vivaldi?
Effectivement, je viens sur l'article, le bout d'article que j'ai pris sur Wikipédia, il y a des paroles qui sont ici, mais je n'ai jamais entendu de version de poème. Ben, moi aussi. Ben, ce qu'on pourrait faire, je pourrais... Continuez à fouiller, puis si je trouve quelque chose, on le passerait à un moment donné.
À suivre, donc. Mais là, vous voulez surtout nous présenter le musicien.
Oui, M. Vivaldi. Alors, l'auteur, c'est un article de Histoire et civilisation de décembre 2022 d'un monsieur qui s'appelle Carlos Prego Meleiro. J'espère que j'ai bien prononcé.
Avec l'accent, c'est bien.
Oui. Alors, l'auteur des Quatre saisons composa avec une extraordinaire facilité un grand nombre de concertos et d'opéras. Il est pourtant mort dans la misère, loin de sa ville natale, comme ça arrive malheureusement à beaucoup de compositeurs, d'artistes. Oui. Illustrissime compositeur, Antonio Vivaldi est joué et réinterprété aujourd'hui à satiété. Mais, ironie de l'histoire, on sait relativement peu de choses de sa vie. Et certains chapitres de sa biographie restent obscurcis par le long oubli ou semi-oubli dont il a pâti jusqu'au 20e siècle. Parce que jusqu'au 20e siècle, on l'a oublié. Et ça a commencé à être rejoué au début du 20e siècle. Alors, on a commencé à le
s'intéresser
à ramener,
lui, puis à
et avec les enregistrements, oui, avec les enregistrements, évidemment, ça a aidé. Alors, le musicien est né à Venise en 1678 et depuis le berceau a souffert d'une affection pulmonaire. Il l'appelait étroitesse de poitrine. Drôle les noms des maladies.
Étroitesse,
hein?
de poitrine. Le diagnostic.
Oui, oui, oui.
Dit-il en toussant.
Oui. Qui, dans une grande mesure, a déterminé sa destinée. Ses parents, Giovanni Battista et Camilla, ont décidé d'orienter cet enfant de santé fragile vers la carrière qui lui ouvrait le plus de possibilités, c'est-à-dire la prêtrise pour les petites santé.
Mm-hmm.
Il est ordonné à tout juste 25 ans, mais son passage en chaire est éphémère. Antonio ne célèbre la messe que pendant un peu plus d'un an. Le mal qu'il tourmente, la fameuse étroitesse de poitrine, l'empêche de faire des efforts et à plusieurs reprises, il ne peut terminer l'Eucharistie. Scandale. Vérité ou excuse, ce qui est sûr, c'est qu'en 1703, il prete rosso, le prêtre roux, comme on le surnomme à cause de la couleur de ses cheveux, a déjà une autre occupation qui le stimule bien davantage, la musique. Le talent de Vivaldi n'a pas échappé à son père, un violoniste plus que compétent qui joue depuis 1685 dans l'orchestre de la Basilique Saint-Marc. Aujourd'hui, Antonio est l'un de ses nombreux rejetons, mais le seul à avoir l'oreille musicale et il se met bientôt à instruire dans l'art du violon. Il se peut que le jeune homme ait complété cette première formation avec les leçons d'un éminent musicien vénitien, Giovanni Legrenzi. Il est possible que le jeune garçon ait parfois remplacé son père dans l'orchestre de Saint-Marc. Mais grâce à cette aptitude, il trouve une profession alternative à la carrière ecclésiastique, celle de professeur de violon. Un poste lui est proposé par l'Ospedale della Pietà, un hospice qui accueille des orphelines et des fillettes démunies. En réalité, l'Ospedale est aussi un conservatoire de renom qui offre une éducation poussée en solfège, en chant et en interprétation à une partie de ses pupilles, appelée figliore, qui déploie ensuite ses compétences dans le chœur et l'orchestre de la chapelle. De la Pietà sortent des virtuoses du luth, du violoncin ou du clavecin. Du luth, du violoncelle, du clavecin,
okay.
Pardon, excusez.
Je pensais qu'il y avait un instrument que je ne connaissais pas. Là.
Qui trouvent ainsi l'occasion de briller avant de plonger dans l'anonymat du mariage ou de la vie conventuelle, malheureusement. Avec quelques interruptions, Vivaldi a lié à cette institution de 1703 à 1740, plus de 30 ans. Et non content d'enseigner le violon, Vivaldi joue également en tant que soliste lors de concerts qui font sensation, à l'Ospedale même ou dans un théâtre vénitien. De nombreux témoignages prouvent en effet que Vivaldi était un violoniste exceptionnel. Et en 1715, l'Allemand Johann F. A. von Uffenbach assiste à l'un de ses récitals au théâtre Sant'Angelo et il est impressionné par sa technique. Il nous dit « À la fin, Vivaldi a interprété un solo auquel il a ajouté une cadenza qui m'a vraiment époustouflé. Cette façon de jouer ne s'est jamais vue, ni ne peut l'être. Il a mis ses doigts si près du chevalet qu'il n'y avait pas de place pour l'archet particulier. » Parallèlement, Vivaldi développe la facette musicale pour laquelle on se souvient de lui aujourd'hui, la composition. Et sa spécialité, ce sont les concertos pour orchestre à cordes et un instrument soliste, principalement le violon, mais aussi le basson, le violoncelle, le hautbois ou la flûte aussi. On en conserve près de 500. Et là, petite méchanceté d'un compositeur, on en conserve près de 500 ou 500 fois le même selon le mot attribué à Stravinsky. Gentil, hein? Pour Vivaldi, c'est une source essentielle de revenus. En 1723, par exemple, il conclut un accord avec les recteurs de l'Ospedale de la Pietà pour écrire deux concertos par mois, rémunérés un sequin chacun. Un sequin, là, je ne sais pas ce que c'est comme...
Comment vous écrivez sequin?
S-E-Q-U-I-N.
Okay.
Ouais. Il fait imprimer plusieurs recueils, mais décide finalement qu'il est plus rentable pour lui de vendre des versions manuscrites de chaque concerto, ce que faisaient d'ailleurs Mozart et d'autres compositeurs. En 1740, il en vend 20 à la Pietà, et l'année suivante, plusieurs à un comte italien. Vivaldi réussit ainsi à gagner des sommes importantes, qu'il gaspille cependant avec la même facilité. Il n'était pas économe, le monsieur. Ses concerts lui valent bientôt l'admiration des cours d'Europe, et il fait entre autres les délices de Louis XV, du roi de France, à Versailles. On organise donc des concerts spirituels à Paris quand les principales salles de théâtre et d'opéra ferment pour les fêtes de Pâques. Outre la musique instrumentale, Vivaldi écrit également des pièces vocales pour des cérémonies religieuses, des cantates et des oratorios, et il se consacre abondamment au genre vénitien par excellence, l'opéra. Il a affirmé une fois avoir composé 94 opéras, bien qu'on ne connaisse que les titres d'une cinquantaine de ses œuvres. Le violoniste, au rythme endiablé, est aussi un compositeur fébrile, capable de son propre aveu d'écrire l'opéra Tito Manlio en 5 jours. De plus, un an après la création de son premier opéra, Ottone in Villa, il s'implique dans la direction du Sant'Angelo, qui fait partie, avec le San Giovanni Grisostomo, ou le San Moïse, des théâtres les plus animés de la scène musicale vénitienne. En 1718, Vivaldi fait ses valises et s'installe à Mantoue, où il passe 3 ans au service du prince Philippe en tant que directeur des spectacles musicaux. Et c'est vraisemblablement là qu'il rencontre une jeune chanteuse, la contralto Anna Giro, qui deviendra sa pupille, la prima donna de ses opéras et, disent les mauvaises langues, l'amante secrète. En 1737, le cardinal Tommaso Ruffo l'empêche de se rendre à Ferrari pour diriger l'un de ses opéras, car il n'apprécie pas l'amitié qui lie l'abbé à Anna, parce qu'il est toujours abbé.
En 1737, donc, il était quand même assez âgé.
Oui, mm-hmm.
Né en 1678.
Ouais, mm-hmm. Il n'apprécie pas...
59 ans. Quand il a eu sa première blonde.
Oui, mais non, il a dû en avoir d'autres avant. Là. Alors, il n'apprécie pas donc l'amitié qu'il lie à Anna, ni son refus d'officier la messe, parce qu'il refuse toujours d'officier la messe. Vivaldi savoure les joies du théâtre, mais il doit aussi faire face à des difficultés. En effet, l'émergence de musiciens plus jeunes, dont le style s'inscrit dans l'école napolitaine, comme Leonardo Leo ou Nicola Porpora, et les difficultés à garder sa place dans le monde de l'opéra sérieux, genre en déclin au profit de l'opéra bouffa, complique son adaptation aux capricieuses modes vénitiennes, ce qui l'amène à miser sur la promotion de ses œuvres hors de sa ville.
On ne pense pas nécessairement à Vivaldi quand on parle d'opéra.
Non, non. Il y a des enregistrements qui existent de beaux opéras de Vivaldi, mais il y en a très peu. Ce n'est pas aussi connu que... Ben, c'est parce qu'après, lui est arrivé... Ben, on l'a oublié, premièrement, et est arrivé ensuite toute la série du Bel Canto avec Bellini, Donizetti, après ça, Verdi... Rossini, bon, alors c'est ça.
On parle d'un connaisseur d'opéra ici.
La fin d'un expatrié. Alors, entre 1720 et 1739, Vivaldi voyage constamment à travers l'Italie et le nord de l'Europe, bien qu'il garde Venise en point de mire et reste fréquemment lié à la Pietà en tant que compositeur. Vers 1740, après avoir reçu le paiement d'un dernier recueil de concertos pour la Pietà, Vivaldi décide de s'installer à Vienne. La raison qui l'a poussé à le faire reste un mystère de nos jours. Peut-être essayait-il de tirer parti de son entente avec l'empereur Charles VI, ou alors fuyait-il le goût musical inconstant de Venise, où la musique de l'an passé ne rapporte plus, au dire d'un contemporain. Quelle que soit la raison, la chance ne lui sourit plus, et en octobre, l'empereur décède, et le 28 juillet 1741, Il prêtre Rosso meurt d'une inflammation interne dans une chambre louée à une veuve viennoise et les funérailles sont accompagnées d'un bref tintement de cloche. Triste coda pour l'un des compositeurs les plus expressifs du baroque.
Toute une vie. Je ne sais pas s'il y a déjà eu un film hein, qui raconte un genre de biopic là, sur la vie de Vivaldi.
Il me semble que c'est intéressant. Oui, en lisant l'article chez moi, je dis, il me semble que c'est, ouais. Je n'ai pas retrouvé.
Vous n'avez pas fait vos recherches?
Non, ben pour le film, là, je ne suis pas très, très...
Oui. Je sais pas comment Vivaldi ça... film, oui. Dans Google.
Ah oui, peut-être, oui.
En fait, Antonio Vivaldi, Un prince à Venise, ça, c'est un film que j'ai trouvé en 2006.
Merci beaucoup, Mathieu. Alors, c'est tout pour...
Oui, ben il y a quelques... Des critiques d'époque, là. Le dramaturge Goldoni le qualifiait d'excellent joueur de violon et de compositeur médiocre, pas gentil. Tandis que le musicien Charles Lavison le plaçait dans la catégorie la plus basse des compositeurs.
Jaloux!
Oui!
On va écouter.
Mais un professeur de Oxford lui reconnaissait une solide capacité de composition et attribuait ses limites à la mauvaise application de son grand talent.
En tout cas, l'automne, c'est beau.
Oui!
Les quatre saisons de Vivaldi. Merci, Serge!